mon tour de vous saluer. Que le Seigneur continue de nous parler les uns et les autres. Dieu, effectivement, peut changer quelque chose dans ma vie. Dieu peut changer totalement ma vie. On a eu quelques extraits ici, quelques témoignages, et beaucoup ici, certainement, pourraient aussi en parler. Inutile d'être un grand prophète, un grand philosophe, que sais-je encore, pour nous rendre compte que notre société n'est pas au mieux. Lorsque vous allumez la télévision, aux informations de 13h ou de 20h, vous entendez quasiment que des mauvaises nouvelles, beaucoup en tout cas. Les chaînes se disputent même les scoops accompagnés d'images chocs pour leur audimat. C'est le but. On finirait presque par se convaincre que les bonnes nouvelles n'intéressent plus personne. Parce que, quelque part, la société s'est habituée à n'entendre que des mauvaises choses. Et elle n'espère peut-être plus, elle ne compte peut-être plus voir les choses changer. Le monde ne va pas bien. Et pourtant, il y a encore une bonne nouvelle à annoncer. Il y a une bonne nouvelle à entendre aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, effectivement, peut changer votre vision de ce monde, peut changer votre vision de votre propre existence, peut même changer radicalement votre manière de vivre et d'être. Cette bonne nouvelle se trouve dans un livre, la Bible. La Bible a la prétention d'être la parole de Dieu, rien de moins. Elle aborde des questions fondamentales et apporte les réponses nécessaires à ce que nous avons au plus profond de notre être, aux questionnements que nous avons. Oh, je sais, peut-être certains peuvent penser que la Bible est un vieux livre, écrit pour les enfants ou les faibles, un livre qui est dépassé, obsolète. C'est en tout cas ce que on veut nous faire croire aujourd'hui. C'est ce que pensait cet homme qui arrive un jour en Afrique, dans un coin reculé, où vivaient jadis des cannibales. Un jour, il rencontre un ancien cannibale qui, justement, là, assis contre un arbre, est en train de lire la Bible. Oui, vous savez, ce vieux livre. Alors, cet Européen se moque un peu de lui et lui dit « Mon pauvre, c'est pas comme cela que vous allez vous en sortir. Vous êtes en retard. Ça fait longtemps, nous, qu'on ne croit plus à toutes ces sornettes. En Europe, ce livre est dépassé. » Eh bien, répond ce monsieur, si ce livre n'avait pas été ici entre mes mains, il y a longtemps que vous auriez été mangé. Dieu peut changer les choses qui, à nos yeux, sont inchangeables. Alors je vous demande cet après-midi d'être honnête envers vous-même. Avez-vous lu la Bible pour en tirer la conclusion qu'il n'a rien à vous apporter ? Quelle image avez-vous de Dieu dont il est question dans la Bible ? Les images que vous avez de Dieu aujourd'hui sont-elles des images ou des choses que vous avez entendues dire de lui par d'autres personnes qui peut-être n'ont même pas lu elles-mêmes la Bible ? Parce qu'elles ont entendu à leur tour des choses sur ce livre. On parle beaucoup depuis des décennies par cette expression blasphématoire parfois, le bon Dieu. Forcément, pour nos contemporains, à force d'entendre cela dans leur esprit, Dieu ne peut être que bon, puisqu'on le qualifie de bon, le bon Dieu. Et le bon Dieu, forcément, ne peut pas faire de mal. Et comme cela a été fort justement rappelé dans le deuxième témoignage, Dieu est un Dieu de justice et sa bonté fait partie, ou sa justice fait partie aussi de sa bonté. Attention, quelle image avons-nous de Dieu? Pensez-vous sincèrement être objectif dans vos choix concernant la foi et la crainte de Dieu aujourd'hui? J'aimerais vous aider à réfléchir cet après-midi et peut-être à prendre une nouvelle orientation dans votre vie, si vous le désirez vraiment, et si vous laissez Dieu lui-même s'approcher de vous, parce qu'il est là, tout près. Le Dieu de la Bible se laisse approcher. pour changer les choses. Je le crois, pour l'avoir personnellement vécu et nous avons entendu ces témoignages. Je voudrais vous proposer trois verbes. Trois verbes qui sont très faciles à retenir, pour nous aider un petit peu dans notre réflexion. Le premier verbe est le verbe « voir ». Puis, nous rajoutons une lettre, le « a », deuxième verbe « avoir ». Et nous rajouterons une autre lettre devant encore, le « s », « savoir ». Jusque-là, ce n'est pas difficile. Voir, avoir, savoir. Voir quoi ? Voir que les hommes ne sont capables d'engendrer que haine, violence. Les hommes parlent de paix, mais une paix ô combien fragile. Ils la souhaitent, ils la cherchent, mais on sent bien qu'elle ne tient pas à grand-chose. Le cœur de l'homme est tortueux. Voir que les êtres humains sont remplis d'orgueil, d'égoïsme, du chacun pour soi, même si par moments, bien sûr, il y a de ces élans de générosité et d'amour les uns envers les autres. Nous avons vécu cela en particulier en 2004, je crois, lorsqu'il y a eu le tsunami. Quel élan de générosité dans notre pays de France et ailleurs, où jamais les associations, les ONG ont recueilli autant de dons financiers. Quelle générosité! Ainsi aussi dans les SIDAction, dans la mucoviscidose, etc., etc. Heureusement qu'il y a, oui, bien évidemment encore ces élans. Mais on le sent bien dans la pensée de l'homme, il y a quand même cette envie, malgré tout, et ce besoin de s'enfermer, de vivre pour soi, d'essayer de tirer la couverture de son côté. Voir que l'être humain cherche toujours désespérément à se connaître, à se comprendre. Il se pose toujours les mêmes questions concernant sa propre identité, surtout son propre avenir. Il cherche alors à s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un qui pourra l'aider, souvent en vain. Superstition en tout genre ou attachement à des idéologies semblent au premier abord offrir peut-être à notre génération du 21e siècle ce qu'elle cherche et pourtant, au fond de son cœur, au fond de son âme, on sent bien qu'elle n'est pas rassasiée, elle n'est pas satisfaite. Il y a comme une frustration, un désespoir. Et peut-être cet après-midi, vous vous dites qu'il vous manque ce quelque chose au fond de votre cœur, qu'il fait naître cette paix, cette joie, cette assurance en regardant l'avenir. Voilà peut-être ce qu'il nous faut voir, c'est qu'il n'y a pas de solution, peut-être aussi claire, que les hommes ne peuvent pas et n'apportent pas de solution. Oh oui, je sais bien qu'en ce moment, en période électorale, tous les candidats n'ont que des solutions. Normal, ils ne se présenteraient pas sinon. Et on sent bien que parfois, ce sont des choses qui naissent pour un but bien précis. Je ne jugerai pas cela. Solution. Que de fois, face à un problème de maths, lorsque j'étais à l'école, n'ai-je pas désiré la solution ? Peut-être en essayant de lorgner sur le voisin. Que de fois, face au fléau du chômage, n'avons-nous pas écouté tel ou tel, entendant dire qu'il a enfin trouvé la solution ? Que de fois, face à la maladie ou la mort, nous n'avons pas crié à l'injustice, faute de connaître justement la solution qui apaise dans ces moments de difficulté et d'épreuve. Que de fois, face à ma vie, face à mon péché qui harcèle et tourmente ma conscience, n'ai-je pas désiré la solution pour enfin être apaisé de tout cela ? Solution. Solution. Voilà ce qu'il nous faut voir, qu'il n'y a pas de solution pour les hommes tant qu'ils se confieront en l'homme, en son intelligence, en son raisonnement, en son orgueil qui, nous le savons, le déforme d'une manière ou d'une autre. La Bible affirme « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de Dieu. Il est comme un misérable dans le désert. » Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Vous savez, quand je lis ce passage, j'ai envie de boire. Une terre salée, brûle, désert. J'ai soif quand je lis cela. Je suffoque. J'espère auprès d'un bonheur. J'espère à une oasis et non pas à un désert. C'est légitime, bien sûr. Un auteur russe a écrit « Nous ne sommes pas heureux et le bonheur n'existe pas. Nous ne pouvons que le désirer. » Pense pas cela, non? Je comprends alors que l'on puisse en arriver, bien évidemment, à des actes suicidaires. L'homme a toujours voulu être heureux, mais la différence de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons construire notre bonheur, toujours plus, sans Dieu. Le programme du bonheur que propose notre monde aujourd'hui, et depuis bien des décennies maintenant, tient peut-être en trois points que la Bible, une fois de plus, toujours actuelle, parce qu'elle est la parole de Dieu, énumère, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voilà à quoi tient aujourd'hui le bonheur de notre société. Et tout cela, précise ce texte de la Bible, ne vient pas de Dieu, mais du monde. Et celui qui en est le prince, Satan lui-même. Car si nous croyons en l'existence de Dieu, nous devons aussi croire en l'existence du diable. Et si ce n'est pas pour l'un que je suis, sans me rendre compte et sans l'avoir peut-être choisi, j'ai pris quand même le camp de l'autre. Les chercheurs de l'ONU ont défini les quatre conditions minimales qui devraient être comblées pour accéder au bonheur. Première condition, c'est être assouvi dans les besoins en nourriture. Deuxièmement, les besoins relationnels, nos rapports avec les autres, qu'ils soient équilibrés et qu'ils existent aussi. Troisièmement, le besoin de sécurité, abri, vêtements, maison, etc. Et enfin, quatrièmement, besoin de stimulation, rapport avec le monde extérieur, faire des projets, regarder l'avenir et pouvoir avoir la conviction, certitude que ces projets peuvent se réaliser. Comble du comble, poursuit cet article, chez nous, en Europe, à quelques exceptions près, ces besoins fondamentaux, quand je dis en Europe, c'est quand même l'Europe pas aussi large aujourd'hui, pays vraiment industrialisé, riche, etc. Ces besoins fondamentaux sont largement satisfaits. Alors je vous pose une question, heureux? Pas si sûr que ça. Notre monde n'a que l'apparence du bonheur. Comme cet homme qui va consulter un psychiatre et qui dit « Docteur, je me sens seul, désespéré, malheureux. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi ?» Le psychiatre lui conseille d'aller au cirque, assister au spectacle d'un clown qui, disait-on, fait rire aux éclats même les gens les plus déprimés. C'est alors que le patient répond au docteur « Vous savez, docteur, ce clown, c'est moi. » La Bible affirme que celui qui se confie en Dieu est heureux, et je le crois. Et derrière ce terme « heureux », il y a non pas des synonymes, mais d'autres termes qui arrivent, comme « confiant »,« apaisé », »,« rassuré ». Car nous l'avons rappelé par ces témoignages, ce n'est pas parce qu'on donne sa vie à Dieu ou qu'on comprend qui est Dieu, qu'on lui fait confiance, que les choses vont aller parfaitement bien dans notre vie. Mais on peut les voir d'une autre façon, les accepter d'une autre façon, et ça change beaucoup de choses. Voir donc la réalité en face, pour réaliser qu'il faut que les choses changent dans notre propre vie. Voir. Nous voir tels que nous sommes, avec les yeux de Dieu, au travers de la Bible, qui devient alors comme un miroir qui reflète l'état intérieur de mon cœur et qui me fait réaliser que j'ai besoin de quelqu'un. Mais il ne suffit pas de faire un constat. Il faut aller plus loin. Avoir, deuxième verbe. J'aimerais m'arrêter sur une histoire vraie de la Bible pour illustrer un petit peu cette pensée. Je lis dans ce livre. Il y avait un homme qui s'appelait Naaman et qui était chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que Dieu avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est dans mon pays, à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie lui dit, « Écoute, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui de l'argent, et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements, se mit en colère et dit, « Mais suis-je Dieu, moi, pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je le guérisse ?» Lorsque le prophète Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il l'envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu fait cela? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux que je suis. Les fleuves de Damas, de l'Abama, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Terrible constat pour cet homme qui est au summum de sa popularité, général en chef, conquête militaire, etc., etc., et qui se voit atteint de la lèpre, maladie terrible qui le condamne à court terme avec des souffrances terribles à l'isolement puis à la mort. Au travers de sa jeune servante, cet homme comprend qu'il y a quelque chose à faire et aller quelque part. Et lorsqu'il arrive là-bas, je ne reprends pas l'histoire, simplement pour remettre un peu les choses en place, le prophète lui donne la solution dont nous avons parlé. La solution. Elle était simple, cette solution. Si simple qu'elle surprend Naaman, qui ne veut pas s'y plier. Le prophète lui dit, « Va te plonger 7 fois dans le Jourdain, plus grand fleuve d'Israël. » Ce qui met en colère le général en chef, c'est que le prophète ne prend même pas la peine de venir vers lui pour lui annoncer cette solution. Il envoie son serviteur. Et Naaman n'accepte pas cette façon de faire. Imaginez, vous êtes dans la salle d'attente d'un médecin spécialiste, vous êtes envoyé par votre généraliste. La porte s'ouvre et vous voyez arriver la secrétaire qui vous délivre l'ordonnance en vous disant que c'est de la part du spécialiste qui, après avoir reçu un coup de fil de votre généraliste, vous fait passer l'ordonnance. Je ne sais pas comment vous réagiriez. Moi, je suis venu pour voir le spécialiste. Je ne suis pas venu pour voir la secrétaire du spécialiste. Oui, mais ça suffit. Vous pouvez partir avec cela. L'ordonnance est simple. Pour avoir la guérison. Il faut que Naaman passe par cette simple solution. Et c'est son orgueil qui fait obstacle. Mais finalement, il se laisse convaincre par l'un de ses serviteurs qui lui dit cette parole extraordinaire d'une sagesse. « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait ?»« Si on vous disait, pour un jour avoir l'espérance d'être auprès de Dieu après votre mort, vous devez faire deux fois le tour de la terre, il y en a beaucoup qui s'y mettraient et qui le feraient. » Et Naaman, en réalisant cela et en acceptant quelque part cette humilité, cette humiliation, obéit. Et à la septième fois, quand il sort de l'eau, il est guéri. C'est un miracle. Pourquoi les hommes, aujourd'hui, au 21e siècle, refusent-ils la simplicité de l'Évangile ? Qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Qui dit « Je suis, moi, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au ciel, personne ne peut revenir à Dieu que par moi. » Pourquoi tant de personnes veulent-elles ajouter leurs œuvres, leur savoir, leur argent pour espérer quelque chose de Dieu? Lorsque Jésus était sur la croix, il a donné des paroles et il a dit quelques paroles, et une en particulier. Il a dit « Tout est accompli. Tout. Il n'y a rien de plus à faire pour toi si tu viens au carrefour de ma croix me rencontrer. Et si tu crois, tu seras sauvé. » Les œuvres, bien sûr, sont belles et bonnes en elles-mêmes, mais elles ne sont pas la clé pour le ciel. J'ai été attristé quelque peu lorsque j'entendais les témoignages de certaines personnes qui travaillaient à les compagnons d'Emmaüs par rapport à tout ce qui était autour de l'ensevelissement de l'abbé Pierre. Et une en particulier témoignait, disant qu'elle avait trouvé, bien sûr, et c'était bien pour elle, on le comprend, une sécurité, un travail, alors qu'elle était à la rue, etc. Et ça, c'est fort, c'est beau. Et elle terminait ce témoignage en disant « J'espère qu'un jour je pourrai aller au paradis. » Je me suis dit « C'est dommage qu'elle ne puisse pas, malgré tout, avoir reçu tout ce qu'elle a reçu, ne pas avoir cette certitude d'aller au paradis. J'espère un jour aller au paradis. » Pensez-vous, chers amis, aller au paradis après votre mort? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Peut-être vous vous répondez en vous-même, oui, effectivement, j'espère bien, ou bien peut-être. Ou alors vous êtes un petit peu, vous laissez un petit peu les choses et vous dites, oh, bon, on verra bien quand on y sera. Est-ce qu'on peut avoir la certitude aujourd'hui d'être en présence de Dieu après notre mort? Oui. Et je vous pose une autre question. Êtes-vous un garçon ou une fille? Je ne pense pas que vous ayez de doute là-dessus. Êtes-vous né garçon ou êtes-vous né fille? Là, il n'y a pas de doute. Eh bien, vous ne répondez pas à cette question, peut-être. Bon, on verra bien. J'espère. Non, je suis un garçon. Je suis une fille. Eh bien, je suis sauvé. Parce que la Bible dit ceci, l'Esprit de Dieu, lui-même, rend témoignage à mon propre esprit que je suis enfant de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et nous héritons de quoi? Non pas d'un trésor caché quelque part, dans une île. Nous héritons du royaume de Dieu, en tant que fils de Dieu. Et ce n'est pas de l'orgueil que de dire « je suis sauvé », c'est parce que celui qui a rempli mon être, parce que je me suis vidé de mon péché, me le confirme. Donc si vous ne savez pas si vous êtes sauvé, c'est que vous ne l'êtes pas. Je voudrais bien vous dire autre chose, mais je ne peux pas. Dieu, dans son amour pour les hommes, propose donc quelque chose de très simple. Et il faut être comme un enfant pour la comprendre et la posséder, c'est-à-dire sans orgueil, sans a priori, dans une totale confiance qui fait naître et grandir la foi. Jésus l'a dit en ces termes, et c'est une parole tellement forte et profonde, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas ce royaume de Dieu que je suis venu vous présenter, comme un petit-enfant, n'y entrera pas. N'avez-vous pas envie d'être un petit-enfant dans les bras d'un père tel que Dieu? Vous savez, lorsque l'on est enfant, on languit d'être adulte. Faire sa vie, être libre, hein, et quand on voit nos parents vivre, on se dit, ouais, mais j'aimerais bien moi, pouvoir prendre ma voiture, aller où je veux, aller au ciné, etc. Mais bon, quand on est enfant, on obéit aux parents, et voilà, on ne peut pas faire plus. Puis on se rend compte, quand on est adulte, au bout de quelques années, j'ai 42 ans bientôt, il y a des moments, quand les difficultés sont là, je me dis, oh, si je pouvais revenir dans la maison de papa et maman et me dire, ah, je vais m'asseoir, il y aura la soupe, elle sera prête, et puis j'irai me coucher, et le lendemain matin, je me relèverai, et mon petit déjeuner sera là, et ce sera bien. Ça vous arrive jamais, ça? Ah, si. Eh bien, il faut être comme cela, et Dieu nous le propose, un petit enfant, tous les jours, même si on est adulte, parce que lui est un père, un bon père. Peut-être certains ont eu de mauvais pères dans leur vie, et que entendre dire que Dieu peut être un père, ça, pour eux, ça paraît pas logique et pas normal, je peux le comprendre. Et il y a des blessures qu'il faut travailler, ça c'est clair. Mais je vous l'affirme, Dieu est un bon père. Et il veut que nous devenions dépendants de lui, comme un petit enfant est dépendant de ses parents. C'est à ce titre qu'il pourra changer quelque chose dans ma vie. Jésus a payé le prix fort pour cela. Il a été cloué sur une croix pour que la colère de Dieu qui devait tomber sur moi, qui suis pécheur, nous soit et me soit épargnée. Quel amour! C'est quelque chose qui nous dépasse, peut-être, mais que nous devons accepter. C'est là une réalité. Il est mort sur la croix. C'est un fait historique que personne ne peut nier. Les efforts pour prouver que Jésus n'a pas existé sont absolument vains. Comme aussi sont impuissants les efforts faits pour présenter à notre génération aujourd'hui un Christ différent de celui que la Bible présente. Nous ne connaissons aucun document solide, aucun raisonnement logique qui puisse nous autoriser à mettre en doute la véracité du texte sacré que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Nous avons eu, et vous avez entendu parler, ce Da Vinci Code, cette pensée diabolique de montrer un Jésus différent, un peu pour qu'on puisse s'accommoder ou ne pas aller plus loin dans une démarche personnelle, pour minimiser les choses, pour non pas humaniser Jésus plus que cela, mais pour le faire pécheur comme les autres. Et empêcher ainsi, parce que si Jésus était pécheur, il ne pouvait pas prendre mon propre péché. Et là, je me retrouverais devant une impasse, devant non, pas de solution. Et on voit là, quelque part, le combat de l'ennemi, le diable, qui veut nous empêcher de réaliser la réalité, la vérité de qui est Jésus. C'est un combat spirituel. Comment se fait-il qu'une mort qui s'est produite il y a plus de 20 siècles ait été jusqu'à présent constamment présente à la pensée d'une multitude et soit devenue une source inépuisable de vie de génération en génération? Et quelle mort! Non pas la mort glorieuse d'un héros populaire, ni même la mort douloureuse d'un martyr, mais la mort ignoble d'un juste sur la croix. Supplice réservé aux criminels. La mort de Jésus-Christ révèle l'amour de Dieu pour les hommes. La mort de Jésus révèle l'amour de Dieu pour toi, tel que tu es, avec tes problèmes et tes défauts. À ce titre, je l'affirme, la croix restera une folie pour nous. Mais face à un tel élan d'amour, soyons objectifs et sincères. Qui peut résister ? L'orgueilleux, oui. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, aux petits-enfants. Aucune mort dans l'histoire de l'humanité n'a apporté autant à l'être humain. Et c'est à ce rendez-vous que je vous convie cet après-midi. Il n'y a de salut, dit la Bible, en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Alors ne soyez pas de ces gens obstinés qui ont l'ordonnance en main comme Naaman, mais qui refusent de se rendre à la pharmacie à cause de leur ego, de leur orgueil, qui chuchotent à leurs oreilles qu'ils vont s'en sortir tout seuls, avec l'aide de telle philosophie, de telle idéologie ou de tel personnage au fort charisme qui peut apporter des solutions. Dieu a l'honnêteté de nous dire la vérité en face. Et cette vérité, c'est que nous sommes pécheurs et que nous devons changer de vie, changer de comportement. Qu'un jour ce monde disparaîtra, il nous l'affirme, pour faire place à son royaume, et que seuls ceux qui se sont humiliés au pied de la croix pourront vivre cette éternité. Oh, je sais, vous préféreriez sans doute un Dieu qui nous dise que nous irons tous au paradis. Mais Dieu n'est pas le chanteur Michel Polnareff. Vous souhaiteriez certainement un Dieu qui vous donne une seconde chance après la mort. Et pourquoi pas une troisième, une quatrième et une cinquième? Dieu n'est pas un créateur de jeux informatiques où le héros peut gagner des vies à l'infini. Il n'y a pas de repêchage ou de deuxième session dans l'au-delà. C'est dans cette vie-ci que nous devons nous plonger dans le Jourdain pour avoir et recevoir la guérison de notre âme, pas après. Car la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Et personne après la mort ne peut influencer Dieu sur notre sort qui se scelle ici-bas. C'est pourquoi, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, ne continue pas de t'endurcir, mais laisse-toi guider. Sois cet enfant. Voilà la réalité. Voilà la réalité que le monde, que le diable nous cache pour mieux contrôler notre vie ici-bas et détruire notre âme demain. Nous voulons un Dieu d'amour dans notre société, mais pas de justice. Nous voulons un Dieu babacool qui s'accommode de nos folies. Ce que j'ai dit tout à l'heure, un bon Dieu. Et ça nous rassure de dire que Dieu est bon. Mais c'est une image bien incomplète du Dieu qui s'est présenté dans la Bible. Nous voulons un Dieu qui nous délivre des conséquences d'une vie mal orientée, mais qui ne nous dise surtout pas de changer de chemin. Bref, un Dieu qui fasse sauter nos contraventions, mais qui ne nous dise surtout pas de rouler moins vite. Nous voulons un Dieu qui nous guérisse du cancer du poumon, mais pas un Dieu qui nous dise d'arrêter de fumer. Nous voulons un Dieu indulgent, conciliant avec nos fautes, un Dieu avec lequel on peut négocier, mais pas un Dieu saint, intransigeant avec le péché, parce que cela dérange. Aujourd'hui, et ça a été rappelé par un des témoignages, le mot « péché » a été pratiquement rayé du vocabulaire. C'est Martin Luther King qui écrivait dans les années 60, et ça ne date pas d'hier, nous détestons entendre dire que l'homme est pécheur. Rien ne blesse davantage l'orgueil de l'homme moderne. Nous avons désespérément cherché d'autres mots comme erreur de nature, absence de bien, idée fausse, pour expliquer le péché de l'homme. Alors ne comptez pas sur Dieu tel qu'il se présente dans la Bible pour vous mettre à l'aise avec votre péché. Voilà pourquoi la société, peut-être nous-mêmes, nous rejetons Dieu, ce Dieu de la Bible aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il dérange ma conscience. Tout simplement parce qu'il veut que je change de vie. Mais si vous ne décidez pas de vous repentir, de changer de vie, rien ne changera. Dieu ne forcera personne, et c'est ce que je disais encore hier soir, c'est ce Dieu-là qui s'est présenté, j'aime ce Dieu-là, parce que c'est un Dieu qui laisse l'homme libre de ses choix. Mais en même temps, il dit, tu as choisi, ne viens pas te plaindre des conséquences de tes choix. J'y suis pour rien. Je t'avais averti. Et nous sommes avertis. Céder devant un Dieu comme cela, ce n'est pas une honte ou une faiblesse, encore moins une mort. Capituler, abandonner son orgueil au pied de la croix, mes amis, c'est vivre. Dieu vous appelle à suivre Jésus sur la voie de l'obéissance, malgré votre esprit angoissé ou votre cœur abattu. Il vient vous donner son pardon, il vient vous donner sa paix, il vient vous libérer. Dans un évangile, un jour, Jésus, entrant dans une synagogue, a ouvert un livre d'un prophète, pardon, et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer à ceux qui sont captifs, la délivrance aux aveugles, le recouvrement de la vue. Au sens propre, il l'a fait, mais au sens figuré aussi. Cet après-midi, vous pouvez voir d'une autre façon, parce que Dieu vous donnera de voir d'une autre façon si vous ouvrez votre cœur à lui. Pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés. Voilà ce que Jésus est venu faire. Si ce n'est pas un changement de vie, qu'est-ce que c'est? Alors, tout comme Naaman a reçu l'ordonnance d'aller se plonger dans le Jourdain, il vous dit cet après-midi de croire simplement au sacrifice à la croix de son Fils Jésus-Christ. Vous pouvez contester cette méthode, Naaman a contesté, mais comme lui, vous comprendrez que vous n'avez pas d'autre solution pour sortir de votre impasse. C'est ce que je veux dire par ce verbe « avoir ». Il faut se plonger, il faut faire un pas. Si vous restez à côté, de côté, en spectateur, vous ne connaîtrez rien du pardon de Dieu qui libère. C'est une puissance, ce pardon de Dieu. Vous ne connaîtrez pas non plus cette vie nouvelle dont on a eu les témoignages tout à l'heure, qui transforme, qui apaise. Je ne suis pas en train de vous dire, je l'ai un petit peu dit il y a quelques minutes, qu'avec Dieu tout va bien, bien sûr. Hier soir, ceux qui étaient là, je témoignais que, ayant donné moi-même ma vie à Dieu à l'âge de 15 ans, j'ai eu pas mal de difficultés, jusqu'à la difficulté, je dirais presque la plus importante que j'ai pu vivre, c'est le décès de mon épouse à l'âge de 36 ans, il y a 5 années. Et face à cela, on est consterné, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. On a presque envie de tout abandonner, de lâcher Dieu. Et j'ai eu cette pensée par moment de le faire. Non, les choses ne vont pas forcément bien tout le temps, mais Dieu donne la force. Dieu donne l'espoir. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il y avait un avenir. Il y a toujours un avenir avec Dieu, mes amis. Si tu te sens découragé, si tu es déprimé, si tu es fatigué, aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle, il y a un avenir avec Dieu. Dernier verbe, je rajoute le S, savoir. Savoir, pour être clair, que c'est le péché qui est l'obstacle majeur, qui est l'ennemi de ma paix et de mon bonheur. Et c'est un mal qu'il faut renoncer. À quoi il faut renoncer? La Bible explique que nous ne pouvons pas être heureux à cause du péché, puisque ce péché nous sépare de Dieu, par définition. Le péché est réellement venu mettre cette séparation infranchissable entre Dieu saint et nous-mêmes, créatures. À cause de ce péché, oui, nous sommes devenus des étrangers. Et pourtant, Dieu a encore une fois pris la peine de venir à notre rencontre. Je tournais hier soir cette image que j'aime beaucoup parce qu'elle est très parlante. C'est Billy Graham qui l'a donnée, de ce petit garçon qui un jour marche sur un chemin avec son père et qui met le pied sur une fourmilière. Et ces fourmis sont énervées, tout est saccagé, ce petit garçon est malheureux, triste, et il dit à son père, mais j'ai pas fait exprès, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, etc. Et le père lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire pour les aider? Si on commence à venir avec nos grosses pattes de mouche, comme on dit, on va tout détruire, on va encore faire plus de dégâts que de bien. Et il continue à marcher. Et le père, au bout d'un moment, qui croit en Dieu, se dit, tiens, il y a peut-être une leçon à donner à mon fils. Et alors il lui dit, tu te souviens tout à l'heure de la fourmilière, eh bien, il y aurait peut-être une solution. Ah, revenons encore à ce mot solution. Ah oui, quoi, laquelle? Ah oui, mais c'est une solution de science-fiction. Ah oui, mais ça fait rien, dis-moi. Imagine qu'on puisse être transformé en fourmi. Nous, avec l'intelligence que nous avons, les connaissances que nous avons, tu te rends compte tout ce qu'on pourrait faire pour les aider? On pourrait rentrer dans leur galerie et on pourrait les aider à reconstruire. Ah ouais, ce serait bien. Puis ils se mettent à rêver là. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu était au ciel. Et il a pris la forme d'une fourmi, il a pris la forme d'un homme. En Jésus-Christ, nous le fêtons à Noël chaque année. Lui, de Dieu qu'il était, le créateur de tout l'univers, il a accepté de se faire, mais plus que petit pour lui, c'était rien du tout, un petit ver. Quelle humiliation, quel brisement. Mais si Dieu nous avait parlé de son ciel, à tous, il aurait pu le faire. Je pense que nous serions tous allés nous cacher derrière les rochers. Nous aurions eu peur de Dieu. Mais il est venu avec la forme d'un homme. Il a paru comme un homme. Il a marché au milieu des hommes. Il a écouté les hommes. Il a souffert comme les hommes. Ainsi, il s'est laissé approcher. Et nous l'avons vu. Nous avons contemplé sa gloire, dit encore la Bible. Voilà ce qu'a fait Dieu. Et il est descendu, il a pris la forme d'un homme, d'une fourmi, pour venir nous aider à reconstruire nos galeries qui s'effondrent de nos vies. Ces galeries s'effondrent parce que je suis un homme pécheur. Parce que je décide ou j'ai décidé un jour dans ma vie de ne pas prendre Dieu avec moi. J'en ai les conséquences, patatras. Vous avez essayé beaucoup de choses, emprunté beaucoup de chemins, mais rien de tout cela vous a procuré la paix et la joie que vous espériez. Si vous essayez cet après-midi de vous approcher de Dieu, parce que lui, il est venu, il s'est approché de vous. Si vous vous rendiez compte aujourd'hui que le chemin que vous cherchez depuis si longtemps se trouve là, à portée de main, maintenant, à portée de pied, j'oserais dire, auriez-vous assez de courage pour prendre ce chemin? Seriez-vous prêt à ne pas suivre la majorité qui suit ce chemin de mort pour prendre, vous, celui de la vie, de la vraie vie, qui peut changer quelque chose chez vous? Il y a une espérance pour toute personne qui décide d'abandonner sa vie à Jésus. Et vous savez, je pense à cet épisode de la croix avec ces deux brigands, l'un à droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Qu'attendaient-ils sur la croix, ces deux hommes? Qu'attendait-il? Qu'espérait-il? La mort? Cependant, un des deux voit en Jésus pour lui une lueur d'espoir. Et il dit à Jésus, « Toi, tu n'as rien fait, nous, c'est justice. » On mérite la mort. Alors, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, c'est-à-dire quand tu reviendras pour régner. Quelle parole ! Avait-il compris quelque chose ? Avait-il entendu parler Jésus de ce royaume de Dieu ? En tout cas, à ce moment-là, oui, il est convaincu que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Et Jésus ne lui répond pas en disant « Écoute, désolé mon petit bonhomme, t'as pas assez donné d'argent dans ta vie, tu t'es pas fait baptiser, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, c'est trop tard pour toi. » Non. Jésus lui répond « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est ce que je disais tout à l'heure, cette simplicité, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oui, cet homme sur la croix n'avait rien à offrir à Jésus. Il n'avait pas de quoi payer. Et si vous avez l'impression d'être comme lui, de ne rien avoir à offrir à Jésus, eh bien, tant mieux. Parce que Jésus ne veut rien de vous, si ce n'est votre sincérité. Votre sincérité qui fera ouvrir votre cœur à lui et qui vous fera dire « Je suis rien. Je me sens coupable. Fais quelque chose pour moi. » Jésus est un cadeau de Dieu. Et moi, j'aime pas la période de Noël. J'aime pas la période de Noël. J'aime pas voir tous ces cadeaux. Parce qu'on a inversé les choses. On fait des cadeaux aux hommes. Et on oublie que c'est d'abord Dieu qui nous a fait un cadeau en la personne de Jésus. Je me suis fait fourmi pour vous. J'ai abandonné ma gloire. Je m'offre à vous. Et vous piétinez mon amour. Vous faites bombance, vous vous enivrez, vous mettez le sexe en avant, l'immoralité. Nous sommes Sodome et Gomorre, et nous allons droit dans la mort, et encore on rigole et on s'amuse. Et on oublie que c'est d'abord Dieu qui a fait un cadeau. Et ce que Dieu veut en retour, c'est notre propre cœur. Comme cadeau. Peut-être, vous ne saviez pas jusqu'à aujourd'hui que Dieu vous avait fait un cadeau. Pense à cet étudiant à l'étranger qui veut rentrer dans son pays. Il n'a pas les moyens, alors il téléphone à son père et lui dit « Papa, est-ce que tu peux m'envoyer un billet d'avion ?» Pas de problème, mon fils, je t'envoie un billet d'avion. Alors il reçoit le billet. Quand il reçoit le billet, bien sûr, il prend l'avion. Il dort dans l'avion. L'hôtesse, au bout de quelques heures, arrive et lui propose une boisson. Et petit garçon, enfin le jeune, c'est pas un petit garçon, un jeune, vous savez comme les étudiants, hein, ils sont toujours fauchés. Ouais, il se dit non, merci, non, pas, je veux pas de boisson, j'ai pas soif. Et puis au bout de quelques heures, l'hôtesse revient avec un plateau repas. Ah, il a faim. Il a faim, mais j'ai rien pour payer. Alors il dit rien. Il dit, non, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Ah bon, mais quand même, à votre âge, on mange. Non, mais j'ai pas faim, vous savez, l'avion, tout ça. Non, ça va. Non, merci. Bon, comme vous voulez. Alors, il descend de l'avion, il rentre dans la voiture avec son père. Son père lui dit, alors tu as fait un bon voyage, ça s'est bien passé. Oui, c'était bien. Mais alors, j'ai faim. Mais attends, ils t'ont rien donné dans l'avion. Ah, si, ils ont bien proposé des repas, mais bon, moi, j'avais pas de quoi payer, alors j'ai un prix. Il dit, mais tu es bête ou quoi? Dans le billet, c'était compris. C'était gratuit. Tu aurais pu prendre. J'avais payé pour ça. Dieu a payé pour nous. C'est gratuit. On n'a qu'à le prendre, on n'a qu'à se servir. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Voilà la bonne nouvelle. Voilà l'évangile. Est-ce que ça vous paraît compliqué? Alors qu'attend Dieu de nous? Il attend de nous la foi. C'est-à-dire mettre notre confiance en Jésus-Christ. La foi, c'est reconnaître Jésus-Christ non seulement comme le sauveur de l'humanité, mais mon propre sauveur. La foi commence lorsque je me sens impuissant, lorsque je me sens et que je tends ma main timidement vers lui. La foi ressemble un petit peu à cet homme qui visite les falaises de Normandie et qui, subjugué par le paysage en voyant la mer, s'avance au bord de ces falaises et, impressionné, ne fait pas gaffe, il se trouve là, assez proche, et tout d'un coup, un glissement de terrain, le voilà qui part en chute libre. Alors, un geste de survie, il essaie de s'agripper. Ah, heureusement, il y a un petit arbuste là, vous savez, à l'aplomb de la falaise. Quelle chance, juste au bon endroit. Le problème, c'est qu'il est quand même pendu là, tout seul. Alors, il crie. Oh ! Et il espère qu'on va l'entendre. Puis au bout d'un moment, il se dit, bon, si vraiment Dieu existe, c'est peut-être là qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Alors il crie à Dieu. Et il se dit, Dieu, il va permettre que des gens m'entendent, alors ils vont m'envoyer une corde, ça c'est sûr, ça ne peut pas être autrement. Ou bien, peut-être en bas, dessous, il y a des pompiers qui vont arriver et puis ils vont déballer leur grande bâche, ils vont dire, allez, vas-y, tu peux lâcher, on te reçoit. Non. Dieu lui répond, ça c'est sûr. Parce que Dieu répond toujours à celui qui crie à lui. Et Dieu lui dit, lâche ta branche et tu verras ce que je vais faire pour toi. Ça c'est la foi. Et cet après-midi, Dieu vous demande de lâcher une branche que vous connaissez, qui vous empoisonne. Et vous verrez ce que Dieu va faire pour vous. Ne pensez pas que Dieu va dire, non, ça, il ne peut pas faire ça pour moi. Vous croyez que Dieu n'est pas assez puissant, le créateur de tout l'univers, pour s'occuper de quelque chose que vous avez sur le cœur? Vous croyez que Dieu n'est pas capable de vous libérer de quelque chose? Sauf que, il faut que vous lâchiez et que vous dites, d'accord, je te laisse ça. Hier, j'ai donné une autre image en disant, vous sortez de votre voiture et vous dites à Jésus, maintenant tu prends le volant et moi je m'assois à côté. Et je te laisse faire. Ça, c'est la foi. Et puis, je vais employer un mot qui n'est pas à la mode aujourd'hui, malheureusement, mais je vais le dire quand même. Dieu attend de nous la repentance. Si tu confesses de ta bouche, dit la Bible, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, si tu dis à Dieu ce que tu as sur le cœur, si tu t'humilies réellement comme un enfant, oui, tu seras pardonné. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'exemple du brigand sur la croix, pour moi, c'est justice. J'ai commis des fautes, donc je dois mourir. Il s'est repenti. Et il a compris que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. J'aimerais vous donner cette occasion cet après-midi de faire un pas avec Dieu. Et pour vous y aider, j'aimerais vous lire une prière simplement. Et j'aimerais que nous puissions simplement, sincèrement, nous mettre devant le Seigneur. Et si vous avez compris quelque chose de Dieu, n'hésitez pas à faire un pas cet après-midi avec lui. Demain, il peut être trop tard. Notre vie ne nous appartient pas. Il faut décider aujourd'hui. Il faut prendre une décision. Il faut avancer avec Dieu. Et les portes vont s'ouvrir, je vous le dis. Je vais lire cette prière une première fois. J'aimerais que nous courbions maintenant, que nous fermions les yeux pour mieux nous concentrer. Je vais vous lire cette prière, et puis si vous pouvez la faire vôtre, je vais la relire ensuite un peu plus doucement, et je vous laisserai répéter dans votre cœur ces paroles. Faites-le vraiment si cela est sincère pour vous. Je la lis une fois. Restons courbés et prions Dieu ensemble. Dieu, je me rends compte aujourd'hui que je ne suis pas heureux dans ma vie. Je me rends compte que je me suis trompé en te tournant le dos. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je me sens si coupable en face de ta sainteté. Jésus, je veux croire en toi. Je veux croire que tu es mort sur la croix pour me donner la possibilité d'être pardonné, lavé de tous mes péchés et réconcilié avec Dieu mon Créateur. Je te remets ma vie, je te l'abandonne et je te demande pardon pour mes fautes. Viens au secours de mon incrédulité et révèle-toi à moi. Merci Jésus de m'aimer tel que je suis aujourd'hui. Merci pour ton sacrifice à la croix. Amen. Nous restons courbés et j'aimerais simplement vous répéter cela. Donc, répétez après moi si vous le désirez. Si le Seigneur vous parle, laissez-lui vous parler. Dieu, je me rends compte aujourd'hui que je ne suis pas heureux dans ma vie. Je me rends compte que je me suis trompé en te tournant le dos. J'ai honte de ce que j'ai fait. Je me sens si coupable en face de ta sainteté. Jésus, je veux croire en toi. Je veux croire que tu es mort sur la croix pour me donner la possibilité d'être pardonné. Lavé de tous mes péchés et réconcilié avec Dieu mon Créateur. Je te remets ma vie. Je te l'abandonne. Je te demande pardon pour mes fautes. Viens au secours de mon incrédulité et révèle-toi à moi. Merci Jésus de m'aimer tel que je suis aujourd'hui. Merci pour ton sacrifice à la croix. Amen. Nous voulons rester encore courbés, simplement, faire silence dans notre cœur. Laisser la présence de Dieu nous envahir. Laisser cet esprit de Dieu prendre la place. Car si nous donnons à Jésus l'autorisation de venir à notre cœur parce que nous aurons confessé, parce que nous lui aurons demandé par cette prière, eh bien il met à la place son esprit qui aujourd'hui, qui maintenant va donner cette paix que oui, tu es un enfant de Dieu. Si vous avez répété cette prière, c'est que vous avez eu le désir cet après-midi d'expérimenter l'amour de Jésus pour vous. C'est que vous réalisez que vous avez besoin de Dieu dans votre vie. J'aimerais vous donner l'occasion de prendre encore position, d'attester ce choix, peut-être par un simple geste de la main. Et on vous remettra cette prière avec, sur ce papier, la possibilité d'écrire une date et de signer, comme si aujourd'hui c'est un jour particulier pour que vous puissiez vous en rappeler. Est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi, maintenant, qui veut prendre une décision pour Jésus-Christ? Qu'il lève la main, simplement. Si tu as pris part à cette prière, tu peux le manifester en levant la main. C'est un geste de foi, c'est vrai, mais c'est devant le Seigneur, c'est devant Dieu, c'est pas devant les hommes. Nous sommes tous courbés. Est-ce que tu veux? Oui, Dieu te voit. On apportera une prière. Oui, madame aussi, on vous voit là-bas. Gardez la main levée, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous apporter cela. Est-ce que vous voulez profiter de cette occasion aujourd'hui pour faire un pas de plus avec Dieu? N'hésitez pas. C'est devant lui que vous êtes placé. Est-ce que ce soir, tu veux prendre une décision pour Dieu? Fais-le. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut prendre cette décision? Je vous laisse encore quelques instants. Jésus-Christ vous aime. Vous l'avez compris. Voulez-vous le manifester simplement? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui désire cela? Que le Seigneur vous remplisse et vous bénisse. Je vais prier pour ceux qui ont levé la main. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ta parole encore que nous avons pu ensemble méditer. Seigneur, elle est source de vie, elle est source de paix. Seigneur, nous te bénissons pour Jésus-Christ, ton Fils, que tu as donné au monde et qui s'est donné lui-même pour chacun de nous. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta patience envers chacun. Et je te prie particulièrement pour ceux et celles qui ont pris une décision cet après-midi. Tu la connais au profond de leur cœur, Seigneur. Nous ne pouvons rien te cacher de toute façon. Tu sais, Seigneur, ce qu'ils ont fait devant toi ce soir. Et je te prie, Seigneur, d'honorer leur foi, d'honorer aussi leur courage, de leur donner, Seigneur, cette paix. Et peut-être y a-t-il des personnes qui n'ont pas osé le faire, mais qui peut-être veulent aussi s'avancer avec toi. Seigneur, donne-leur aussi cette foi, qu'ils puissent s'engager aujourd'hui, devenir un enfant de Dieu. Gloire te soit rendue dans le nom précieux de Jésus-Christ, qui vient bientôt. Amen.